Alors, comprendre comment fonctionne la démocratie municipale, le Jeune Conseil de Montréal est une simulation qui permet chaque année à des jeunes de 18 à 30 ans de débattre de projets de règlements fictifs dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de Montréal. Notre invité, Louis Roux, et les présidents du comité exécutif du Jeune Conseil de Montréal. Alors, bon, bienvenue à l'émission.
Merci, bon matin.
Oui, Louis, on présente souvent le Jeune Conseil comme une école d'engagement. Concrètement, comment l'expérience transforme-t-elle la vision qu'ont les jeunes de la politique?
Bien, je vous dirais, il y a beaucoup de jeunes, premièrement, qui s'inscrivent au Jeune Conseil pour comprendre comment la politique fonctionne. Donc, on pourrait dire, t'sais, certains n'ont pas une idée concrète de ce que ça représente et ils s'intéressent. Ils veulent s'intéresser au sujet et ça leur permet d'un peu d'entrer dans ce monde-là. Donc, ça transforme la façon dont ils voient la politique, simplement en leur développant une vision de ce que c'est. Puis pour d'autres personnes qui sont déjà engagées, ben ça leur permet d'avoir une expérience plus hands-on, on pourrait dire, sur qu'est-ce que ça représente vraiment d'avoir des discussions, des débats sur des règlements, dans le fond.
Et surtout, je trouve qu'à cette ère où les gens se méfient de tout le monde, puis il y a comme un désengagement politique, une méfiance vis-à-vis des institutions, est-ce que ça peut aider, ça?
Ben, je pense que oui. Puis surtout au Jeune Conseil, je dirais, tu sais, les discussions sont ouvertes, c'est un environnement très bienveillant. Donc, chaque personne peut avoir sa place, puis on encourage tout le monde à s'exprimer du fond de leur cœur, dans le fond. Puis je pense que ça fait du bien, justement, aux gens de réaliser que c'est possible.
Alors, en tant que responsable des projets de règlement, faudrait peut-être nous donner un exemple de thématique qui a été débattue, parce que je pense que vos travaux sont terminés.
Hein, exactement, c'était jusqu'à hier soir
jusqu'à hier
à 18h.
Ah, bon. Alors, est-ce qu'il y avait un projet quelconque important à discuter là-bas?
Bien, on en avait quatre.
Oui.
Le premier, c'est un règlement sur la démocratie municipale accessible, parce qu'on faisait on proposait, dans le fond, une réforme du cadre électoral de la Ville de Montréal pour rendre ça plus uniforme à travers la Ville, parce que là, on sait présentement, dans certains arrondissements, il y a des conseillers d'arrondissement. Dans d'autres, il y a seulement les conseillères de ville. Dépendamment de où c'est,
c'est d'une complexité incroyable.
Exactement. Oui. Donc, le but du projet, c'était de simplifier ça. Tout le monde vote pour deux personnes. La mairesse serait élue un peu comme au provincial ou au fédéral. Le parti ayant le plus grand nombre d'élus nomme sa mairesse. Donc, ça, c'était un peu le premier projet sur lequel on a débattu.
Ah, bien, peut-être qu'il faudrait le présenter à Mme Soya. Oui,
pourquoi pas.
Parlons de il y avait d'autres projets, donc
Oui. Le deuxième, c'était un règlement sur la communication citoyenne et les réseaux sociaux. Donc, on voulait vraiment unifier et bonifier l'offre des communications de la Ville de Montréal. Donc, en séparant, présentement, les communications sont gérées dans le service des communications et des ressources humaines à la Ville. Donc, on se proposait de faire un département seulement des communications, bonifier ça, puis amener la Ville au 21e siècle, si on peut dire, en misant vraiment sur les réseaux sociaux pour toutes les communications de la Ville, pour rejoindre des gens plus jeunes, d'ailleurs, qui sont peut-être moins engagés de ce côté-là.
C'est vraiment des bonnes idées. Allez, on y va avec les deux autres.
Oui. Règlement sur l'avenir de l'eau.
Oui.
Donc, évidemment, dans le contexte environnemental qu'on connaît tous, on s'est rendu compte que Montréal, les Montréalaises consomment énormément d'eau, même comparé à d'autres personnes au Canada. Alors, l'idée, c'était de responsabiliser les gens en introduisant une tarification de l'eau.
Oh, ça, c'est pas populaire, ça.
C'est pas populaire, mais ça pourrait être nécessaire. Je pense que le Canada est une aberration au niveau mondial par rapport à ça. Donc, ça pourrait être un moyen de progresser vers une plus grande sobriété. On parlait aussi d'installation d'infrastructures plus absorbantes.
Oui, parce qu'un des problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de gaspillage d'eau, mais qui n'est pas dû par les consommateurs.
Oui, exactement. Donc, le but avec la tarification, c'est d'avoir un peu plus de revenus pour financer le maintien et l'amélioration de nos réseaux aussi.
Et le quatrième
projet? C'est le règlement sur la valorisation et la protection du patrimoine paranormal et immatériel de Montréal.
OK.
Oui, donc ça sort vraiment, vraiment du moule.
Oui, du champ gauche peut-être.
Exactement, oui. Donc l'idée, c'est justement de reconnaître que, dans le fond, le patrimoine des Montréalais, c'est pas seulement les vieux édifices, c'est pas seulement le Mont-Royal, mais il y a toutes sortes de légendes, de trucs historiques qui sont pas nécessairement rattachés à des éléments physiques, mais qui font quand même partie de la conscience collective. Et le projet visait vraiment à mettre ces éléments-là en valeur, à leur donner une certaine protection. Donc, des lieux qui pourraient être reconnus comme hantés ou quelque chose du genre pourraient avoir un statut patrimonial spécifique
c'est
qui accorderait certaines protections.
Ouais. Alors, Soria Martinez-Ferrada, est-ce qu'elle a participé? Est-ce qu'elle a vu ce que vous avez proposé à votre conseil?
Elle n'est pas venue cette fin de semaine.
Non.
On aimerait bien la voir l'an prochain. L'invitation est toujours
ouverte.
Vous
envoyez vos projets de loi. Moi, je trouve que c'est intéressant.
Oui. C'est certain que sûrement des gens dans son équipe en sont conscients. Mais oui, ce serait le fun de la rencontrer dans le futur.
Bon, je fais ça. J'ai fait un peu de blague, mais c'est parce que je trouvais intéressant ce que vous avez proposé et dans le contexte dans lequel on est présentement. C'est intéressant d'avoir c'est des idées quand même rafraîchissantes. La Jeune Chambre de Montréal insiste sur la diversité des parcours. Alors, est-ce qu'il faut être un étudiant en droit ou en politique pour participer ou c'est réellement ouvert à tout le monde?
C'est réellement ouvert à tout le monde. C'est sûr que, naturellement, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs personnes de sciences politiques et plusieurs personnes en droit qui sont participantes.
Et Louis, vous étudiez en quoi, vous?
Ah, moi, j'ai étudié en ingénierie.
Ah, d'accord. Bon, ah, OK.
Ouais, en logiciel et je travaille dans le domaine depuis quelques années. Donc, vraiment, la diversité des parcours est présente au Jeune Conseil. On a des médecins, on a des étudiants au cégep, on a des gens qui sont au travail dans le domaine communautaire. Donc, c'est vraiment, on essaie de rejoindre tous les horizons puis ça enrichit vraiment le débat, justement.
En fouillant donc sur les communiqués et les informations sur la Jeune Chambre, j'ai quand même appris que, la Jeune Conseil, j'ai appris que vous portez une attention particulière à l'accessibilité pour les jeunes personnes en situation de handicap. C'est très important chez nous à Canalem, si on est la voie de l'inclusion.
Oui.
Alors, quelles mesures concrètes ont été mises en place pour que la politique ne soit plus perçue comme un milieu fermé pour ces personnes-là?
Bien, cette année, on essaie vraiment de miser là-dessus, et par le passé aussi, mais cette année, une des mesures les plus importantes, c'est d'essayer de rendre notre cahier de participation le plus accessible possible. Donc, au cours de l'année, on a eu des formations justement pour nous aider à mieux comprendre de quelle façon on peut développer un document que n'importe qui peut utiliser de façon efficace. Et d'ailleurs, ben, c'est moi qui ai été responsable d'assembler le cahier de participation cette année.
Ouais.
Donc, j'ai eu l'occasion de découvrir un peu toutes les fonctionnalités de Word pour ce qui est des titres, pour l'utilisation de différents styles, pour le contraste visuel, donc
oui.
Être capable pour les gens un peu qui voient un peu moins bien de bien oui. Décortiquer le document, mais aussi pour les personnes non-voyantes qui utilisent des lecteurs d'écran,
oui.
Comment bien organiser les sections, identifier les images, les tableaux pour que la navigation se fasse bien. Donc, ça a été une occasion d'apprentissage pour moi, puis j'espère que certaines personnes des participants auront pu en bénéficier.
Oui, parce que même la police de caractère, hein, moi, j'utilise
Helvetica
pour moi-même parce que je trouve que c'est plus facile à lire, mais effectivement, pour éviter...
Exactement.
Les... Ouais,
donc, on a mis à jour nos styles, puis le cahier va être amélioré pour les années suivantes.
Selon votre expérience, là, est-ce que le passage au Jeune Conseil sert de tremplin peut-être à certains ou certaines qui souhaiteraient s'impliquer peut-être de façon plus durable ou plus longtemps là, dans leur communauté, pas nécessairement politique, là, mais
oui,
et ça aussi.
Absolument, oui, oui. Bien, dans la communauté, je veux dire, le Jeune Conseil en soi est une opportunité de s'impliquer. Au fil des années, on prend des plus grands rôles dans l'organisation. C'est du travail bénévole, vous savez. Toute la planification de l'événement, il n'y a personne qui a été payé pour ça, mais ça demande quand même des dizaines, oui. Des centaines d'heures au fil de l'année. Donc, c'est un engagement en soi de continuer à organiser le Jeune Conseil. Mais, comme vous l'avez dit, des gens qui veulent s'engager en politique, il y en a qui ont commencé au Jeune Conseil. On peut penser notamment à un des conseillers d'arrondissement, Gerlando Guaraggi, qui a été participant au Jeune Conseil l'an dernier. Et
ah
qui
oui.
A été élu aux élections.
Ah, ben ça, c'est intéressant.
En novembre.
J'avais pas vu ça. Ben merci de le dire. Oui.
Donc, puis c'est pas le seul. Là. Il y a des anciens conseillers, conseillères, le maire de Nicodère notamment, il y a longtemps, avait été participant du Jeune Conseil. Puis ben, il a abouti à la vraie mairie de Montréal. C'est quand même remarquable.
Il me reste une petite minute. Est-ce qu'on peut, pour la prochaine édition, là, comment est-ce qu'on peut s'inscrire sur ceux que ça intéresse?
Ça va se faire dans quand même plusieurs mois encore,
ouais.
Mais généralement, les inscriptions se font au mois de novembre et décembre. Pour l'édition qui se passe en janvier, donc janvier 2027. Donc, je vous dirais jeuneconseil.org, c'est à regarder, ou sur tous les réseaux sociaux, évidemment.
Puis je rappelle donc que pour ceux qui sont intéressés, donc c'est jeuneconseil.org, comme tu l'as dit. Louis Roux, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.
Merci.